Radio Okapi. Le journal Innocent Olenga à la présentation. Nous sommes ensemble pour cette première édition vespérale d'information sur Radio Okapi. Mesdames et messieurs, les sommaires d'abord. Le pays va très mal, les bouts congolais. Le 31 décembre 2017 approche. Ce n'est pas en tout cas moi qui l'ai dit, mais c'est plutôt les évêques catholiques. Dans leur déclaration ce vendredi ici à Kinshasa, ils appellent les peuples congolais à se mobiliser pour la tenue des élections avant fin décembre 2017. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU adopte la résolution d'envoi d'un groupe d'experts internationaux chargés d'enquêter sur la violence en RDC. Déjà, il prévient les auteurs présumés de ces violations que son message est clair. La communauté internationale a fermement l'intention de les traduire en justice. Dans la deuxième partie du journal, vous suivrez notre dossier du soir sur les retours du haut calme à Kasseni, en Ituri, après l'agression d'une délégation des officiels par la population en furie. Mais vous suivrez également l'invité du jour, Dr Jean-Jacques Mouyembe, et les informations sportives. Bonsoir à tous. Le pays va très mal. Debout congolais, le 31 décembre 2017 approche. Tel est le message de l'Assemblée plénière des évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Dans leur déclaration ce vendredi 23 juin ici à Kinshasa, les évêques appellent le peuple congolais à se mobiliser pour la tenue des élections avant fin décembre 2017. Je vous propose de suivre l'extrait de ces messages lus par l'abbé Donatien Cholet au micro d'Étienne Kalema.
Nous devons prendre en main notre destin commun. C'est le moment historique. Nous avons le devoir sacré de nous approprier les lois qui réglementent notre vie, notamment l'accord de la Saint-Sylvestre, l'unique feuille de route solidement fondée sur la Constitution de la République, dont il faut exiger le respect et la mise en application intégrale par les signataires. La sortie pacifique de la crise actuelle exige la tenue des élections présidentielle, législative et provinciale avant décembre 2017, tel que le prévoit l'accord politique du 31 décembre 2016. Une minorité de concitoyens a décidé de prendre en otage la vie des millions de Congolais. C'est inacceptable.
En marge de ces messages de la CENCO, il y a eu lancement ce même vendredi de la campagne de sensibilisation sur l'accord du centre interdiocésain et appel à des manifestations publiques pacifiques. L'objectif, faire approprier la population cet accord. Des milliers de volontaires vont participer à cette campagne qui démarre le 30 juin prochain, date anniversaire de l'indépendance du Congo. Les détails avec Étienne Kalema.
Ces agents de paix vont sillonner toute la République, rue par rue, maison par maison, afin de sensibiliser la population sur le contenu de l'accord du 31 décembre 2016, de manière à s'en approprier, explique Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale du Congo.
Ce document important doit être connu par l'ensemble des citoyens congolais afin qu'ils s'en approprient et en revendiquent la mise en œuvre intégrale. Votre mission est d'apporter cet accord auprès de toutes les femmes, de tous les hommes, tous les jeunes Congolais. La mission qui vous est confiée est lourde, mais aussi noble.
De leur côté, quelques agents de paix présents à cette cérémonie se déclarent prêts à participer à cette campagne avec détermination.
La mission que nous venons de recevoir aujourd'hui, c'est notamment de sensibiliser le peuple congolais que l'heure est grave.
Nous allons faire en sorte d'aller partout là où nous serons envoyés pour sensibiliser la population.
Et c'est l'accord qui a mis la population à l'aise et tout le monde gérait sur cet accord, ce n'est pas difficile.
Selon les organisateurs de la dite campagne, cette dernière ira du 30 juin prochain jusqu'à la tenue des élections prévues pour cette année, selon le même accord politique obtenu par la Conférence épiscopale nationale du Congo.
Ketumile Masire s'en va et laisse la RDC 15 ans après les dialogues intercongolais à une étape des commencements ou des recommencements. La réaction est du professeur Ntumba Luaba, ancien secrétaire exécutif de la CIRGL, Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. L'ancien président Botswana et ancien facilitateur du dialogue intercongolais s'est éteint hier jeudi. Écoutez le professeur Ntumba Luaba, je pars Blaise Kishindani.
D'abord, ce sont mes regrets et mes condoléances au peuple du Botswana. Ensuite, je constate qu'un homme qui a fait beaucoup à la République démocratique du Congo, qui a tout donné, qui s'est consacré, est parti. Et il est parti 15 ans après le dialogue intercongolais, mais il nous laisse pratiquement au stade du commencement ou du recommencement. Lui, il a cru dans le Congo, dans les potentialités du Congo, dans la bonne foi des hommes politiques congolais. Et ce sont les mêmes avec lesquels nous étions au dialogue intercongolais qui sont encore en bonne partie actuellement ici sur place, qui ont participé en octobre et puis en décembre à d'autres dialogues. Est-ce que nous ne serons qu'une nation de dialogue? Lui, il est parti, d'autres sont partis, qui avaient participé aussi à ces dialogues. Je pense à Zaïdi Goma, je pense au patriarche Tshisekedi. Chez nous, l'histoire ne fait que bégayer, ne fait que des allers-retours.
Je vous le disais dans les titres, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté ce vendredi une résolution prévoyant l'envoi d'un groupe d'experts internationaux chargés d'enquêter sur les violences en RDC. Dans un communiqué, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, a déclaré que l'ouverture d'une enquête internationale sur les violences odieuses des droits de l'homme et atteinte à ses droits dans la région du Kasaï envoie aux auteurs présumés les messages que la communauté internationale a fermement l'intention de les traduire en justice. Explication avec Babel Pongo Massimango.
Le texte adopté par consensus par les 47 États membres du Conseil demande au haut-commissaire aux droits de l'homme d'envoyer une équipe d'experts internationaux, y compris des experts de la région, pour enquêter sur les violations de droits de l'homme et abus présumés, ainsi que sur les violations de droit international humanitaire dans les régions du Kasaï. Ces experts devront recueillir et conserver des renseignements sur ce qui s'est passé et déterminer les faits et les circonstances, puis partager leurs conclusions avec l'ONU et les autorités judiciaires congolaises. La résolution demande à la RDC de coopérer avec les experts qui devront, eux, veiller à ce que les auteurs des crimes soient jugés par la justice congolaise. Avec cette résolution adoptée, les experts devront présenter un premier rapport oral lors de la 36e session du Conseil en septembre, ainsi qu'un rapport écrit lors de la 38e session en juin 2018.
Parce que nous parlons du Kasaï, restons au Kasaï oriental, où la députée nationale Eugénie Chika Mulumba de l'UDPS dénonce plusieurs tracasseries dont est victime la population des Kabeya Kamwanga de la part des forces de l'ordre. D'après l'élu de ces territoires, plusieurs barrières sont érigées entre Mujmai et Kabeya Kamwanga par des agents des services de sécurité sous prétexte de rechercher les miliciens Kamwina-Nsapu. C'est dans cette opération de contrôle qu'il déborde, fait savoir Eugénie Chika Mulumba, qui interpelle les autorités compétentes. Et les Tomiko d'Etienne Kalema.
L'affaire Kamwina Nsapu est venue là-bas comme une aubaine. C'était l'occasion pour pouvoir les brimer davantage. Là-bas, on a acheté des gens de chez nous pour dénoncer les autres. Ils accusent les autres pour dire qu'ils cachent les miliciens. On a brimé beaucoup les gens de chez nous. Et on a incendié les maisons. On a pillé même le peu qu'ils ont. Sur le tronçon de Mbujimayi à Munkamba, il y a 10 barrières. Et à chaque barrière, on doit payer 1000 francs. C'est à cause des 1000 francs qu'on tracasse les gens là-bas. Si tu n'as pas 1000 francs, on te tape. Même ceux qui viennent dans transposer dans un camion, on les fait tous descendre. Et à chaque barrière, chacun doit payer 1000 francs. Si tu n'as pas 1000 francs, on te tape fort. Je demande aux autorités de chez nous d'avoir un peu de compassion. Pourquoi on nous fait souffrir comme ça? Qu'est-ce que nous on a fait? Partout la guerre est déjà finie. Pourquoi on continue à nous faire souffrir comme ça? Qu'est-ce que nous on a fait à ce pays pour souffrir comme ça?
Direction Beni, au Nord Kivu, où les activités ont repris normalement après l'attaque hier de la ville par des Maïmaï, attaque repoussée par les FARDC et la MONUSCO. Le bilan fait au moins 18 morts, selon l'armée et la mairie de la ville. Christian Mapendano pour les reportages.
Les transports ont repris, les boutiques et magasins, les banques, les stations d'essence et les petits commerces ont ouvert normalement. Les activités reprennent après des combats acharnés qui ont opposé les FARDC à des miliciens en pleine ville de Beni. En effet, la journée de jeudi n'a pas été rose pour les habitants de Beni qui s'étaient réveillés sous les coups de feu. Des tirs à l'arme lourde et légère étaient perceptibles en plein centre-ville jusqu'aux environs de 11h30. La journée a été caractérisée par un sentiment de peur au sein de la population qui a passé presque toute la journée dans la maison, excepté quelques curieux qui observaient le mouvement des militaires dans la ville. Aux dernières nouvelles, l'armée parle de Mai Mai et d'évadés de la prison centrale de Kangwaï qui se sont battus avec les FARDC depuis le week-end dernier. Pendant ce temps, la société civile pense qu'il s'agirait d'une nouvelle rébellion qui aurait coalisé avec d'autres groupes armés dans le milieu. Depuis l'après-midi du jeudi, le calme a commencé à se rétablir dans la ville et les activités ont repris normalement dans toute la ville de Beni ce vendredi matin. Beni, Christian Mapendano, Radio Kapi.
On reste au Nord Kivu pour évoquer cette controverse autour de l'identité des auteurs des attaques de ces derniers jours contre les localités de Kabacha et Kalou ainsi que de la ville de Beni. Les FARDC parlent d'un groupe de miliciens Mai Mai ayant reçu les renforts de certains évadés de la prison de Kangwaï, pendant que la société civile de Beni, elle, alerte sur un mouvement insurrectionnel en gestation dans la zone. Papi Martial Mukeba.
Les auteurs des attaques de la localité de Kabacha et de la ville de Beni sont des Mai Mai. Déclaration du porte-parole des opérations Sokola Incide. Le lieutenant Gilles Ngongo parle d'un groupe de ces miliciens ayant reçu un renfort de certains évadés de la prison centrale de Kangwaï de Beni.
Nous avons plus remarqué la présence de quelques évadés dans leurs rangs. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est tel groupe Mai Mai, Mazembe, Saperita, Kilalo, mais tout ça dans un format complet. Ce sont les Mai Mai que nous faisons face.
Pour la société civile de Beni, il s'agit d'un mouvement insurrectionnel en gestation dans la zone. Son président, le révérend pasteur Gilbert Kambalé, appelle les gouvernements à sa neutralisation.
Comme société civile, quand on recoupe tous ces événements, nous pensons que c'est vraiment un mouvement insurrectionnel. Il y a des troupes rebelles donc dans les territoires de Beni. Pour ce faire, je crois que la mission régalienne de l'État s'étouffe, d'enlève toute tentative de créer la rébellion.
Signalons que l'attaque c'est jeudi de la ville de Beni par un groupe d'hommes armés a fait 16 morts, dont 13 assaillants et 3 militaires FARDC. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
À Lubumbashi, les agents grévistes de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, dénoncent ce qu'ils qualifient de chasse à l'homme organisée par la police nationale congolaise, alors qu'ils attendaient, déclarent-ils, les résolutions de la commission d'enquête mixte Assemblée gouvernement provincial SNCC par rapport à leurs revendications salariales. Des policiers les ont dispersés et ont mis la main sur un de leurs. Témoignage d'un gréviste au micro de Nelly Kabena.
Hier, nous étions au niveau du Kamaramba, là où on se regroupe d'habitude pour attendre les résolutions. À notre grande surprise, d'ailleurs, on avait déjà des indices, ça fait plus de 3 semaines, nous sommes sous l'harcèlement de la police nationale. Et hier, ils sont passés à l'action, ils ont mis la main sur notre ami et notre collègue de service, Aimé Ngombe Kazembe. Et nous avons des indices, parce que nous étions des témoins oculaires, c'était une préméditation. Nous étions dans un groupe, nous nous sommes dispersés comme d'habitude quand ils approchent, et ils nous ont pourchassés. Bien quoi que nous étions en groupe, ils ont mis la main seulement sur Aimé Kazembe. Ça prouve à suffisance qu'il y a préméditation. Nous demandons qu'il soit libéré sans condition.
Actualité Afrique Monde. En dehors de nos frontières, précisément en France, Jean-Marie Le Pen accuse sa fille de paranoïa et reproche à sa petite fille de fuir, désirée de participer au bureau politique du Front National mardi dernier. Jean-Marie Le Pen a trouvé non seulement porte close, mais barrières enchaînées, un événement qui a visiblement du mal à digérer et contre lesquels il a vitupéré dans les jours qui ont suivi. L'armée syrienne a pénétré ce vendredi pour la première fois depuis 2014 dans la province orientale de Deir Ezzor, contrôlée entièrement par les groupes État islamique, à l'exception d'une partie de sa capitale et de l'aéroport, selon l'agence France Presse. C'est avec l'appui des combattants iraniens, libanais et irakiens, mais aussi grâce à un important appui russe, a affirmé à l'AFP Rami Abdel Rahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des attentats à la bombe ont fait près de 30 morts vendredi dans deux villes du Pakistan, Quetta et Parachinar. Au moins 13 personnes, dont 7 policiers, ont péri tout d'abord dans un attentat suicide à Quetta, dans le sud-ouest du pays. Les kamikazes est passé à l'action lorsque les agents ont fait stopper son véhicule afin de les fouiller à un poste de contrôle. On dénombre également 19 blessés. Quetta plutôt, ville située à une centaine de kilomètres de la frontière afghane, est régulièrement secouée par des actes de violence. Les groupes islamistes Jamaat ur-Ahrar, nés d'une session avec les talibans pakistanais, a revendiqué l'attentat dans un message adressé à Reuters par son porte-parole Assad Massoud. Radio Okapi.